It is Monday, October 13th at 4:45 p.m., and this is new GTLD program update.
Good afternoon, everyone.
Bonjour à tous. Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons commencer.
Good afternoon. We have.
Bonjour, il y a des sièges à l'avant de la salle pour ceux qui arrivent. Alors, bienvenue à tous. Je suis Christine Molette. Et Willett, pardon, je viens de l'équipe des opérations GDD, division des domaines génériques. Merci de vous joindre à nous. Cela fait 2 ans que je travaille à l'ICANN et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les mises à jour de programmes deviennent de plus en plus faciles. Et avec beaucoup moins de choses à dire ou à faire. Donc, j'espère que nous n'allons pas vous ennuyer. Nous avons entendu dire que vous souhaitez moins de statistiques et plus d'informations. Donc, nous espérons pouvoir y arriver pendant la présentation d'aujourd'hui. J'ai avec moi Tran Nguyen, qui est directrice des opérations pour les nouveaux GTLD. Et également Russ Weinstein, qui est avec nous. Nous allons vous donner une petite mise à jour sur le statut des programmes et certains des problèmes que nous voyons à l'avenir dans le cadre des programmes, là où il y a des problèmes. Tran vous parlera des contrats, Ross des résolutions de conflits. Ensuite, nous repasserons la parole à Ross pour les processus après contrat, les tests de délégation. Et avant les questions-réponses, nous avons des panélistes que nous avons invités et qui viendront nous parler de leur expérience dans le cadre des programmes des nouveaux GTLD, des nouvelles leçons tirées et ce qu'ils peuvent vous en dire. Et ensuite, il y aura la séance questions-réponses. Donc, comme l'a dit Akram lors de la séance précédente, cela fait un an. Et donc, depuis le 23 octobre de l'année dernière, nous avons délégué 418 nouveaux noms de domaine de premier niveau pour donc cette série 2012 du programme. Il nous a fallu un certain temps, donc jusqu'au 23 octobre 2013, donc plus longtemps qu'on aurait pu le croire, mais le rythme a été relativement stable, même s'il a été plus lent que ce qui avait été prévu. Akram a parlé tout à l'heure du rythme maximal qui serait de 1000 nouveaux GTLD par an. Donc 418 est de toute évidence en dessous de cette cadence. Et à l'avenir, avec les candidatures qui existent, le processus de résolution des conflits, nous n'obtiendrons pas ce rythme de 1000 par an. Alors, vous avez un calendrier à l'écran. Ne montrez jamais cette diapositive à Akram parce que je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais cela vous montre un petit peu le statut du programme de manière générale. Donc, actuellement, il y a la fenêtre d'application qui a été faite en 2012. Ce que nous définissons comme évaluation d'application et extension de l'évaluation d'application a été prolongée. Il y a des objections au litige. Il y en a 10 qui sont en attente depuis un an. Donc, c'est quelque chose qui prend un certain temps. C'est une question d'accord mutuel entre les parties. Résolution des conflits. Plus de la moitié ont été résolus, donc 120 ont été résolus au jour d'aujourd'hui. Les trois dernières étapes, les pourcentages, en fait, reflètent les pourcentages qui ont été effectués sur le total potentiel estimé de noms de domaines de premier niveau. Donc, les chaînes uniques, les ensembles conflictuels uniques, on oublie pour l'instant les indirects. Donc, 1300 nouveaux GTLD pour l'instant qui sont estimés. Donc, vous avez là le pourcentage estimé qui sont effectués. Le programme, à la base, a été prévu pour l'année 2013. Nous l'avons donc repoussé lorsque, au cours de cette année, nous avons en fait prévu jusqu'à 2017, pardon. Sur la base des activités actuelles de résolution de conflits qui donc prennent plus longtemps que ce que nous avions prévu. Il y a beaucoup de mécanismes de responsabilité qui ont été enclenchés, ce qui a un impact sur les processus à venir et sur les résultats. Donc, à long terme, la question, c'est la phase de résolution des conflits. Donc, vous voyez que ceci s'étend jusqu'à 2017, début 2007. Et donc, une fois que les conflits auront été résolus, eh bien, nous pourrons passer au contrat, au test de prédélégation et à la prédélégation. Alors, j'ai vu quelqu'un envoyer un Twitter sur le commentaire d'Akram, un tweet sur le programme, sur le budget et le fait que le programme ayant été prolongé, eh bien, de toute évidence, il faut reprévoir le budget. Donc, 10 millions de dollars pour l'année 2017. Donc, chaque année, nous avons des prévisions budgétaires qui sont publiées en mai dans le cadre du budget général de l'ICANN pour 2017. C'est à la page 53 du PDF si vous souhaitez vous y référer. Donc voilà un petit peu la base. Et comme Akram l'a dit, voici quelles sont les prévisions au jour d'aujourd'hui sur la base de ce que nous connaissons, sur la base des rythmes conformément aux avis du GAC. Voilà le rythme auquel nous sommes en train de travailler. La conversation sur la série suivante que nous venons d'avoir nous dit que, bon, on ne peut pas commencer la série suivante avant d'avoir terminé celle-ci. Donc, de toute évidence, il y a une certaine dépendance sur certains aspects de la série actuelle du programme. L'équipe travaille avec acharnement pour voir un petit peu où les choses coincent, où est-ce qu'on pourrait accélérer le processus. Et voilà ce dont Trang et Russ vont parler aujourd'hui. Russ Weinstein au micro. Je suis responsable de l'équipe des opérations. Je vais parler des résolutions de conflits. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas bien le programme, je vous rappelle un petit peu ce qu'est un ensemble conflictuel. Un ensemble conflictuel, c'est deux ou plus applications pour une chaîne similaire ou confuse. Et donc, ce que l'on essaye de faire, c'est de différencier les deux. Donc, dans le cadre du programme, il y a eu 233 ensembles conflictuels qui ont été identifiés et nous avons 120, donc plus de 50% qui ont été résolus au jour d'aujourd'hui. Et depuis la dernière vente aux enchères de juin, nous avons vu 50 conflits de plus qui ont été résolus, 8 seulement qui ont été résolus par un mécanisme ICANN. Donc, c'est en fait la communauté par une pré-évaluation qui est entrée en jeu. Donc, comme je le disais, la résolution des conflits s'accélère et de plus en plus, les candidats résolvent les problèmes par eux-mêmes. Nous voyons la plupart des ensembles conflictuels qui devraient être résolus au cours de l'année fiscale actuelle. 85% sont déjà prêts pour la vente aux enchères. Il y en a un qui a été invité au CPE et qui commencera dans les semaines à venir. Nous avons également 7 ensembles qui doivent encore passer par le CPE, qui ne sont pas encore éligibles, et 20 d'entre eux qui devront d'abord passer par le mécanisme d'enchères. Mais pour la majorité des résolutions de conflits, normalement, on devrait être bon en 2017. Évaluation préalable de la communauté, j'en ai déjà parlé un petit peu. Nous avons réalisé 16 de ces évaluations. Là, on parle d'application et pas d'ensemble conflictuel parce que l'évaluation se fait sur les applications. Donc, parfois, il y a plusieurs applications de plusieurs candidats de la communauté dans le même ensemble. Et donc, il faut plusieurs évaluations de la communauté pour le même ensemble conflictuel. Donc, nous avons 16 qui ont été terminées. Venons de terminer les 3 derniers. La semaine dernière, nous les avons publiés. Il y en a un qui a été invité et 10 qui ne sont pas encore éligibles. Et ce qui, en fait, les empêche d'avancer, c'est un peu le genre de choses que l'on voit pendant, comme ce que vous allez voir pendant la présentation, le problème de responsabilité en attente, les demandes de changement ou alors des avis non résolus du GAC. Donc, il faut que les ensembles conflictuels soient stables, il faut que les applications soient stables avant de pousser plus loin. Et une des choses dont j'aimerais parler, c'est le cycle d'évaluation, les délais de cycle. On pensait 3 à 4 mois. Maintenant, on voit que cela dure un petit peu plus longtemps pour les différents groupes de résultats que nous avons eu, mais ce qui est important, c'est que les choses se font. Les choses se font de manière très réfléchie par le travail du panel. Les analyses sont bien faites. Le processus est suivi. Donc, nous leur rappelons le calendrier. Ils connaissent le calendrier. Et ce qui est important, c'est que le travail est bien fait. Donc, c'est là-dessus que nous nous concentrons. Nous espérons que ce calendrier de 3 à 4 mois ce délai est quelque chose qui convient et que nous allons pouvoir continuer d'utiliser. Et en parlant avec le panel, on se rend compte que finalement, ces délais sont tout à fait raisonnables pour l'avenir. Ce qui prolonge le processus un petit peu, c'est en fait la quantité très importante de correspondances, d'informations qui existent dans la sphère publique à la dernière minute, qui sont mises dans la sphère publique à la dernière minute. Et donc, le panel doit essayer de bien comprendre les différentes lettres, les différentes informations dans le contexte et les prendre en compte dans leur évaluation.
Les enchères, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment juste une résolution de dernière minute, enfin de dernière... comme vous, il nous reste donc trois ensembles, de dernier recours, pardon, trois ensembles qu'il nous reste à résoudre. Il y a encore le temps pour que ces choses soient résolues avant les prochaines enchères. Si vous regardez la charte pour le mois prochain, nous en avions 16 prévues en octobre, donc nous en sommes à 3. Même sur des choses qui ont été résolues aux dernières minutes avant de passer aux enchères, les négociations doivent s'arrêter 7 jours avant les enchères. Donc, ces trois ensembles vont aller vers les enchères. Il y a des raisons pour que les gens ne soient pas éligibles pour aller vers aux enchères. Les CPE doivent se produire en premier. Il y a des mécanismes de redevabilité qui sont en attente. Et aussi, il y a des ensembles conflictuels qui sont indirects. Un don a été résolu la semaine dernière. D'ailleurs, nous travaillons là-dessus, sur ces processus, sur le cadre de travail de ceux-ci durant les mois passés. Et nous allons lancer une période de commentaires publics pour cela. Donc voilà, c'est quelque chose auquel vous devez vous attendre. Nous continuons d'utiliser les mêmes processus que nous avons utilisés jusqu'à présent. Et la dernière chose dont je voulais parler, nous avons donc eu des enchères au mois de septembre et nous avons eu un peu cela généré de la publicité. Les trois ensembles sont allés vers les enchères au mois de septembre l'année dernière, comme vous, tout cela sera mis de côté jusqu'à ce que le conseil d'administration prenne une décision. Je pense que le micro n'aime pas ma voix. Donc, quand il s'agit de la transparence et de l'ouverture, nous avons donc rassemblé un résumé financier. C'est donc une version un peu abréviée de ce que vous allez trouver sur le site web, mais cela détaille les revenus à partir des activités. Donc, nous en sommes à presque 14 millions de dollars de revenus et nous avons donc mis de côté ces fonds. Le conseil d'administration prendra des décisions sur ses utilisations. Je pense que si vous suivez ce lien que j'ai mis sur le PDF, vous atteindrez le résumé de financier que nous avons publié sur le web. Je vais passer la parole à Chuan, qui vous parlera des contrats. Donc, Chuan, au micro. Il y a des statistiques que je peux partager avec vous. Aujourd'hui, nous avons invité 1176 candidats à la phase contractuelle. La majorité avait déjà exécuté sous le contrat. certains sont dans les différentes étapes de la période contractuelle. Nous allons parler de ces 55% qui sont couramment dans le processus de contrat. Nous avons des gens qui sont donc en contrat. Ces candidats ont donc répondu aux informations que nous avons envoyées. Mais il y a d'autres éléments qui sont en attente et qui empêchent Daikin d'en arriver avec un accord. Ils ont peut-être besoin de plus de temps pour soumettre d'autres informations. Il pourrait y avoir des changements qu'ils ont à soumettre. Il y a des tas de choses qui préviennent ces candidats de pouvoir être capables de continuer avec leur processus. Ces candidats sont en moyenne, prennent en moyenne à peu près 52 jours. Il y a quelques candidats qui n'ont pas répondu à nos informations, nos demandes d'informations. Il y en a 55 et en moyenne, ces candidats sont dans la queue d'attente depuis à peu près 242 jours. Donc, c'est une longue période pour ne pas répondre aux demandes d'informations que nous leur avons envoyées. Donc, comme vous voyez en bas de la charte, vous avez 114 candidats qui ont reçu le contrat, l'accord, mais qui n'ont pas encore signé ce contrat. Et ces gens-là sont dans la file d'attente depuis 78 jours. Encore une fois, ça fait quand même beaucoup de temps, mais bon, nous avons peu de gens dans cette queue d'attente, dans cette file d'attente. Les processus de contrat, le cycle est de 3 semaines. Si vous n'avez aucun problème en attente, vous pouvez donc passer à travers ce processus très rapidement. En ce moment, nous avons 15% de candidats qui puissent passer dans ce cycle, utiliser ce cycle de 3 semaines. Les autres prennent beaucoup plus de temps pour se faire. J'ai mis sur cette présentation, les 3 raisons pour lesquelles ceux-ci ne passent pas assez rapidement. Les candidats ont donc besoin plus de temps pour soumettre les informations. Il y a aussi des changements. Il y a beaucoup de candidats qui soumettent des changements, des demandes de changement à leur candidature durant le processus. Donc, cela cause des délais. Aussi, on va donc passer à autre chose. On va passer aux extensions. Dans les 2 semaines passées, nous avons envoyé beaucoup de notices d'extension aux candidats. Par exemple, pour le mois et demi passé, nous avons reçu des centaines de demandes de candidats qui demandaient plus de temps pour signer les accords. Dernièrement, nous avons donné un accord à 345 TLD pour des extensions jusqu'en 29 juillet 2015 pour qu'ils signent donc le contrat d'opérateur de registre. Il y en a 154 qui ont reçu. Les 154 qui ont reçu d'autres périodes d'extension, et cela sera basé sur un cadre de travail que nous avons publié en septembre. Et ce cadre de travail, vraiment, a été mis en place pour pouvoir fournir d'autres dates butoirs pour que les candidats accomplissent d'autres tests, disons, pour qu'ils puissent en arriver à un accord avec la CAN. Nous avons suivi cette approche au lieu de donner directement une extension, par exemple, de temps de temps, parce que nous ne voulions pas passer par le même processus où ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant, par exemple, que les candidats pensent qu'ils ont beaucoup de temps pour signer cet accord. Et soudainement, on arrive à la fin de la période butoir et puis rien n'a été fait. Donc, cette date butoir avec des étapes peut encourager les candidats pour qu'ils puissent travailler pour résoudre les questions, les problèmes qu'ils ont afin de pouvoir signer le contrat, l'accord. Nous avons publié donc ce cadre de travail et ce qui prend en compte la spécification 13 et le code de conduite. Pour la plupart des candidats qui attendent la détermination de la CAN sur ces demandes avant de signer l'accord d'opérateur de registre. Et juste pour vous donner une idée, une vue d'ensemble sur la spécification 13 et les statistiques de code de conduite que reçoit ICANN, vous voyez, pour la spécification 13, il y a des gens qui sont dans la période commentaire et pré-commentaire. Il y a donc une boutoir que nous avions mis en place qui était dans septembre et qui donnait le droit au TLD de se soumettre pour pouvoir qualifier à l'extension de juillet 2015. Donc, comme vous voyez, nous avons reçu beaucoup de spécifications 13 et ils sont dans la file pour passer à travers pour passer dans le processus. Donc, il y a aussi une autre. Aussi, vous voyez aussi le volume quand il s'agit des exemptions du code de conduite. La majorité sont dans la période de commentaires. Le volume n'est pas aussi important que pour la spécification 13. Mais nous recevons beaucoup de demandes dans ce domaine-là aussi. Comment il s'appelle, lui? Son nom. Ross Weinstein au micro. Nous parlons donc des processus d'après contrat. Donc, je vais parler de tout cela aussi, la transition du processus de délégation. Alors, une mise à jour sur la prédélégation. On en parle souvent dans toutes les autres sessions. Nous sommes en dessous de notre capacité. Nous avions de la place pour 20 par semaine et nous pouvons donc en faire plus dans l'avenir quand la demande va augmenter. Bien sûr, nous avons en fait vu la demande à baisser alors que plus et plus d'industries signent des contrats pour devenir des opérateurs de registre. Nous avons vu une baisse des demandes de prédélégation, de testing de prédélégation. Et donc, cela va plus vite que nous l'attendions. Nous envoyons des invitations et les gens attendent à peu près 27 jours. Nous aimerions pouvoir confirmer des rendez-vous avec les gens pour qu'ils signent, disons, dans les 2 semaines. Donc, il y a à peu près 50% des candidats qui répondent à ces invitations pour obtenir des rendez-vous. Donc, nous devons voir cette capacité courante alors que nous allons de l'avant pour faire des ajustements pour voir si nous avions besoin si nous pouvons gérer les coûts différemment alors que le programme va de l'avant. Nous avons fait aussi une mise à jour sur les spécifications du test vendredi dernier. C'est assez focalisé sur la section IDN. Nous avons eu des suivis, des informations qui nous ont été données à Londres, mais en nous disant qu'il n'y avait pas de transparence sur ce processus, surtout quand il s'agit du langage. Nous verrons donc ça durant le printemps et l'été pour voir si nous pouvons développer plus de transparence, des critères de transparence et publier cela en ligne. J'ai vu ce matin que nous avions un problème avec la publication. Nous devons, comme vous le savez, pour la publication des documents, il y a donc une date butoir pour publier ces spécifications. Il y a une autre mise à jour là-dessus, c'est que les critères de test, donc leur mise en œuvre pour les RDDS ou pour les WHOIS, les clarifications pour les WHOIS qui ont été lancées, je pense, durant l'été. Nous essayons de faire passer cela dans le test prélégation au début de janvier. Donc, en attendant, vous aurez des notices qui seront envoyées. Et nous verrons si cela a été fait avant la mise en place, la date de la mi-février. Et moi, ma dernière diapo est ce message. Est-ce que la transition vers la délégation pourra aller plus rapidement? Combien ça prend entre la signature de l'accord d'opérateur de registre et la délégation? Bon, par mois, on voit qu'il y a à peu près 70 jours. Il y a un petit peu de temps de relâche dans les processus. Ça peut être un peu diminué durant l'été. Et maintenant, on est à l'automne. Comme vous voyez, si les les temps s'allongent comme ça, c'est que les candidats ne mettent pas en place des PDT. Les opérateurs ne complètent pas leurs étapes d'intégration. On voit donc un tiers d'opérateurs de registre qui complète ces étapes d'intégration. On pensait que l'intégration allait être faite en une semaine et que les gens allaient attendre la fin du testing prédélégation. Et on voit l'opposé. On essaie de trouver des manières pour aider les candidats d'opérateurs de registre pour que cela, que les gens fassent les choses plus rapidement et que le processus soit plus rapide. Nous savons que c'est un peu confus, qu'il y a du testing prélégation qu'on coordine à travers le portail de candidats et aussi le portail GDD. Et il y a plusieurs portails et nous savons que cela cause des défis. Nous essayons d'être clairs dans notre message. On essaie de vous diriger vers le bon portail et nous espérons que les gens continuent et qu'ils essayent d'obtenir la délégation le plus rapidement possible. Avec ça, je pense que c'est bon. Merci, Ross, Mme Chuan. Il y a donc des ralentis dans les processus, dit Christine Ouellet. Et donc, il faut parler de la gestion des coûts. Nous sommes très sensibles sur le coût du programme en général. Nous avons des prévisions pour 2017 déjà. Et nous voulons pas revenir vers vous l'année prochaine alors que nous faisons les prévisions pour 2016 et des projections même plus longues. D'ailleurs, ce serait bon si nous pouvions compléter ce programme plus tôt que nous l'avions prévu. C'est pour ça que nous soulignons où ces ralentis se trouvent dans le processus pour pouvoir et vous expliquer ce que nous faisons au niveau des extensions avec des intervalles, disons. Nous espérons que les candidats remplissent les demandes, répondent aux demandes, aux questions qui ont à faire avec les demandes d'extension. Je voudrais pas transitionner maintenant si nos panélistes voudraient bien nous rejoindre. Nous avons Brent Fawcett qui est là pour nous parler. Et nous avons Roger Castillo qui est manager service de Ecom. Vous allez bientôt avoir un contrat d'opérateur d'enregistre d'ailleurs. Jacob Maras, qui est de Big Room Inc., co-fondateur et directeur de Dot Echo, qui est lui aussi techniquement encore un candidat. Et puis Reg Levy, directeur des services légaux pour Mind Plus Machine, qui parlera de Point Bavière. Brent, au micro. Puisque vous avez entendu parler du processus de navigation, disons. Je peux parler du côté d'opérateur de registre. Nous avons fait une candidature pour 54 TLD. 17 dans de ceux-là ont été délégués. 5 sont encore en sunrise de ces 17 et 12 qui sont... Nous avons encore 3 TLD qui sont dans le processus de contrat. Il y en a encore qui sont en conflit. En naviguant dans le processus, nous avons eu 3 objections de chaîne similaires. Certains de ces TLD ont été résolus. Certains attendent encore une décision. En tant que candidat, quand je vois le processus, je vois 4 étapes. Le processus, l'application de candidature, l'évaluation, la prédélégation et la prédélégation. Tous ces processus, toutes ces étapes sont différentes. Il y a eu des défis dans le processus de candidature. Je vous ai dit que nous avions 54 candidatures. Le jour de l'ouverture où on pouvait soumettre une candidature, nous sommes allés sur le titre et nous avons vu qu'il y avait un maximum de 50. On se dit, mais ils ont dû se dire, qui peut faire une candidature de plus de 50 domaines? Donc, nous avons deux identifiants. Je pense que John en a ouvert une douzaine de noms d'identifiants. Et cela a suivi, d'ailleurs, parce que maintenant, nous utilisons le portail de prédélégation et nous avons deux noms d'identifiés et d'identifiants séparés, puisque le maximum était à 50. Donc, cela pose des défis. Il faut que toutes les informations soient bien organisées. Les gens qui ont fait peut-être une candidature pour un n'ont pas ces problèmes-là, mais le processus n'a pas été fait pour faire face à des bureaux d'enregistrement comme nous. Donc, c'était des défis, mais je pense que ces problèmes seront résolus durant la prochaine série. Le processus d'évaluation, nous sommes tous passés par là. Il ne se passe beaucoup de choses durant cette période assez longue durant l'évaluation. Il y a eu des résolutions de conflits. Si John et moi avions des conflits ensemble, on ne savait pas si nous, on allait réussir ou l'autre. Donc, on ne voulait pas se parler durant ce processus. Non, quand nous sommes arrivés à la fin de cette processus d'évaluation, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses avaient changé avec l'ICAN aussi, si vous vous rappelez, ce processus de pré-évaluation. Ils ne voulaient pas nous parler. Et quand ils nous parlaient, ils avaient deux personnes, ils prenaient des notes, la conversation voulait s'assurer que tout cela était documenté, ce qui avait été dit. C'était un petit peu difficile d'avoir une conversation fluide avec les gens dont vous aviez besoin du soutien. Donc, les choses ont changé après. Nous avons vu que notre relation est devenue plus facile, on travaillait plus facilement, on pouvait poser des questions, avoir des réponses. C'était un processus qui est devenu plus facile. Maintenant, nous sommes dans cette... nous avons des certains qui sont en prédélégation, après délégation. Donc, nous avons deux portails à travers lesquels nous travaillons. C'est un petit peu difficile. Je serai heureux lorsque nous débarrasserons du vieux système. Parce que moi, j'ai une centaine de tickets là-dedans, à plusieurs différentes étapes d'ailleurs, des statuts différents. Et quand on passera au nouveau système GDD, il y aura une amélioration significative.
Et on y arrivera. Je pense que d'ici la fin de l'année, nous travaillerons dans un portail. Et c'est bien parce qu'en fait, nous n'avons plus ce maximum de 50. Nous avons maintenant un seul identifiant d'utilisateur. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Merci, Brett. Bonjour, Jacob Malthouse. Je suis cofondateur de Big Room Inc., qui est en fait un candidat de la communauté pour Point Ego. Je voulais vous remercier de m'avoir invité à parler. Nous avons pu réussir. La communauté a été très heureuse de voir que le résultat de notre évaluation a été positif. Il y a eu beaucoup de soutien de la part des différentes personnes. Donc, dont Greenpeace, dont le fonds World Wild Fund, l'environnement des Nations Unies, etc. Alors, je voulais maintenant parler brièvement du pourquoi. Pourquoi est-ce que ces organisations sont intéressées par rapport à tout ça? Quels sont les avantages des TLD communautaires? Et à la base, il y a quatre domaines clés. Premièrement, la responsabilité, l'identité, la collaboration et le soutien. En termes de responsabilité, et je crois que ça, c'est vraiment le centre de ce que souhaite voir la communauté, c'est être inclus dans le contrat avec l'ICANN. Donc, c'est un contrat à trois voies. Il y a le contrat avec l'ICANN, mais aussi avec la communauté, l'environnement dans lequel elle fonctionne. La deuxième partie, c'est la politique d'enregistrement, sa mise en application pour éviter les abus. Et troisièmement, ces deux doivent pouvoir créer de la confiance par les membres de la communauté, par les utilisateurs finaux, en cas de problème. La communauté sera toujours là à long terme. Deuxième partie, l'identité. Donc, les grandes marques du monde peuvent réellement accéder aux noms qui sont importants sur la base des critères développés par la communauté. Et les utilisateurs finaux verront un contenu pertinent, un environnement pertinent de site web. Et autre chose qui est très intéressant pour la communauté, c'est le fait que certains de ces noms pourront justement soutenir un développement durable. Donc, un des exemples dans la communauté, c'est l'idée des noms phares où on aura par exemple, certains plaidoyers, des campagnes qui correspondront à certains noms. Par exemple, eau.eco pourra être utilisée pour une campagne d'assainissement des eaux en Inde et cela pourra être réutilisé en Afrique pour le nettoyer, assainir l'eau dans ces lieux. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé à long terme pour le bien de la communauté. Donc, voilà quelques exemples auxquels nous sommes en train de penser. Troisièmement, la collaboration. Au niveau de l'opérateur de registre, la communauté à la base va fonctionner comme modèle multipartite pour le point éco. Les membres de la communauté pourront mieux s'identifier les uns les autres en ligne. Donc, par exemple, on pourra avoir un entrepreneur certifié qui pourra donc, grâce au point éco, signaler ceci à son client. Il y aura aussi des moyens d'exploiter la communauté des candidats. Donc, deux des choses, par exemple, WWF a lancé un rapport et a utilisé les candidats ou alors cela peut permettre aussi de coordonner certaines actions sur, par exemple, le climat. Et puis, aider les gens de la communauté à atteindre leur propre but. Donc, par exemple, le point éco s'améliorera en termes de durabilité au fil des années. Pour nous, ceci est important parce que le point éco, ce n'est pas uniquement une question de marque. La communauté souhaite que ce soit un engagement à agir au fil du temps. Et enfin, le soutien pour les adhérents actuels, pour les organisations certifiées. Il y aura donc une plateforme globale pour tous les membres. Et nous pensons que c'est quelque chose d'unique et de puissant. Et enfin, l'idée de réinvestissement pour qu'une portion des ventes soit redonnée dans une fondation qui est en fait gérée par la communauté. Donc à la base, il nous faut savoir bien utiliser les ressources. Il y a encore beaucoup de choses à faire par le biais des mécanismes de responsabilité d'ICANN. La communauté est très excitée par cette idée du point éco parce que cela peut réellement représenter un avantage pour le plus grand bien de tous. Alors, Roger, au micro. Merci pour cette invitation. Je vais parler de l'application .lat. Nous avons demandé qu'un seul TLD, le .lat, qui est un nouveau TLD, pour fournir une présence Internet pour tout ce qui est trait à l'identité latine. Nous faisons ceci en collaboration avec IconLat, qui sera notre opérateur de registre, et au NIC Mexico. Nous occupons également du TLD pour le Mexique et nous occupons des services de soutien. Un des plus gros enjeux auxquels nous sommes confrontés en termes d'application avec le point LAT, c'est le problème du calendrier, parce que le programme a commencé en 2007 lors de la première série des TLD et le point Amex, en fait, le point Mex, pardon, ça fait partie d'une université. Et il y a eu un changement de doyen, un changement de conseil d'administration. Nous avons changé au niveau académique, au niveau de l'industrie. Donc, toute la hiérarchie a été chamboulée. Donc, deux fois. Donc, en fait, il a fallu redéfinir le projet à chaque fois. Ceci a dû être fait par différentes personnes, avec différentes approches, qui se focalisaient sur différentes choses. Et donc, la charge de travail a été vraiment énorme. Et donc, pouvoir simplement continuer le projet représentait un effort important. Ensuite, nous avons pu soumettre notre candidature avec donc des clarifications et nous sommes prêts aux tests depuis un an, mais nous n'avons pas pu signer de contrat à cause du COI. Au Mexique, cet instrument financier ne fait pas partie du fonctionnement quotidien des banques et des institutions financières. Donc, nous avons de nouveau dû faire des recherches pour présenter les informations au conseil d'administration, pour leur dire nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de ceci pour ce projet, parce que, bon, l'ICANN le demande. Et donc, tout ce processus a été assez douloureux, ce processus de COI. Nous avons enfin fini par trouver une banque qui puisse nous fournir les instruments dont nous avions besoin, mais nous nous sommes trouvés confrontés à un manque d'expérience en termes opérationnels. Nous avons dû investir énormément de temps, énormément de larmes pour obtenir l'instrument de la banque par le biais de la banque correspondante aux États-Unis et ensuite par le biais de l'ICANN. Donc, l'histoire est longue, mais pour en finir, notre contrat sera signé à midi, jeudi, dans la salle olympique. Vous êtes tous invités et nous espérons que nous pourrons lancer le point LAT et nous espérons que ce sera très réussi. Le lancement, devrait se produire l'année prochaine. Merci. Reg Levy de Minds and Machines. Et comme UniRegistry, nous sommes également candidats portefeuille. Donc, j'aimerais un petit peu répéter ce qui vous a été dit. Il est beaucoup plus facile actuellement de communiquer parce que avant, il y a eu un certain nombre de situations où on s'est rendu compte qu'on était limité à 50. Donc, il a été difficile de classer tout ceci, de voir où étaient les choses. Donc, je voulais simplement confirmer ce qui avait été dit, que j'aime beaucoup le login unique. Donc, je parle du point Bayern. Donc, le point Bayern, c'est le point Bavière. Donc, en anglais, Bayern, mais Bavière en français. Donc, ce qu'a mentionné Jacobs s'applique. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'état d'où l'on vient, la ville d'où l'on vient. Donc, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ce domaine. Ce n'est pas uniquement une question de marque, c'est une question de présentation. Comment on souhaite se présenter sur l'Internet? Par rapport à ce qu'a dit Roger, donc même chose, les délais ont représenté un problème pour nous. Ça fait longtemps déjà que nous sommes prêts. Et il est difficile de se rendre auprès d'un gouvernement et de leur dire « Ah, désolé, il y a encore un retard. Non, on n'aurait pas pu le contrôler. Non, on n'aurait pas pu l'anticiper. Oui, c'est nul. Oui, on est désolé. Oui, on continue de vous informer. » Mais en fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc ça a été un petit peu difficile du point de vue du gouvernement. D'une manière générale, les gouvernements aiment obtenir des résultats. En fait, c'est toujours eux qui sont en haut de l'échelle. Il y a eu également des problèmes en termes de COI, changement d'exigence du COI. Et étant donné que nous avons soumis beaucoup de candidatures, eh bien, il a été difficile pour nous de changer tous nos COI. Donc, à chaque fois qu'un TLD a un problème, on effectue le changement. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de problème pour le point Bavière, pour celui-ci. Nous n'avons pas négocié le contrat. Nous avons simplement cherché à être... à lancer notre projet. Vous pouvez maintenant acheter votre propre nom point Bavière, point Bayern. Ça a été intéressant, tout ce processus. Comme il a déjà été dit, il y a des modifications intéressantes qui vont se produire à la série suivante et qui amélioreront les choses. Christine Willett au micro. Merci à tous. Est-ce que vous pouvez rester pour les questions? Je ne sais pas s'il y a des questions. Nous passons donc à la séance de questions-réponses. Y a-t-il des questions à distance? Nouvelle intervenante au micro. J'ai trois questions. Je peux m'asseoir entre chaque question, d'ailleurs. Aucun problème. Alors, pour Reg Levy. Donc, Russ avait une diapositive à l'écran qui, en fait, détaillait le coût des mises aux enchères. Est-ce que le coût incluait les frais, les pourcentages qui allaient aux revendeurs? Réponse au micro. Oui, tous les coûts étaient inclus. Deuxième question. Les 240 jours où les gens n'avaient pas répondu au COI, est-ce que cela comprenait les candidatures qui étaient en attente? Parce que je sais que, personnellement, pour le point CASA, nous étions dans cette période d'attente et donc on a peut-être fait remonter la moyenne. Donc, je ne sais pas exactement. Réponse de train au micro. Oui, effectivement, les gens en attente font partie de cette file d'attente. On pourrait peut-être regarder, voir si effectivement on éliminait ce genre de catégorie, si cela changeait la moyenne. Alors, dernière question de la nouvelle intervenante au micro. Donc, on a dit qu'on était en dessous de la capacité. Quel est le taux actuel d'utilisation? Alors, le taux actuel est de moins de 8 par semaine. On est à peu près à 6 par semaine. Jean Pendergast, je sais qu'il y a un an entre la signature de l'accord et la délégation. Est-ce qu'il y a des délais intérimaires pour passer au PDT? Réponse au micro. Oui, nous avons des rappels. Nous essayons d'avoir un rendez-vous à peu près 90 jours. Et après à 120 jours et après 12 mois, pour s'assurer que les gens aient suffisamment de temps pour passer par le processus. Par exemple, si vous avez besoin de repousser le rendez-vous, aucun problème, vous pouvez quand même arriver à votre délégation. Mais et d'une manière générale, y a-t-il eu des changements au contrat d'opérateur de registre? Et s'il y en a eu, eh bien, où peut-on les trouver? Réponse au micro, non. Il y a des lignes rouges. Il y a des versions avec donc des lignes qui indiquent les changements. Il y a certaines variations dans les différentes versions qui ont été publiées. Nous avons envisagé d'afficher des synthèses des changements ou des listes des changements. Donc, on vous informera. Merci, Jim. Nouvel intervenant au micro. J'ai une question par rapport aux outils de publication que nous avons. Nous avons un certain nombre d'outils pour publier les informations sur le statut du programme des GTLD. Parfois, les choses sont un peu complexes parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir par rapport au processus. Et cela nous conduit à une situation où les gens ne connaissent pas vraiment le programme des nouveaux GTLD et donc n'ont aucune opportunité de trouver quoi que ce soit qui leur donne un peu une idée générale. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été prévu comme ça. Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et dans le contexte de la responsabilité ou de la redevabilité, les mécanismes ne sont pas du tout visibles. Il y a un gros manque de visibilité et donc de l'extérieur, on ne comprend pas réellement ce qui se passe parce que il y a eu une procédure en termes de responsabilité contre l'ICANN qui, en fait, n'était pas contre l'ICANN, mais contre un autre candidat. Mais en théorie, c'est contre l'ICANN. Ça a été publié, mais ce n'est pas visible. Sur le site de l'ICANN, la candidature en elle-même, bien, qui fait quoi contre qui dans ce domaine? Je crois qu'il y a un problème de transparence. Au sein de l'ICANN, il n'y a que quelques personnes qui sont expertes et qui savent exactement ce qui se passe. Et donc, dans le cas des communautés, si quelqu'un souhaite se rendre quelque part, eh bien, il n'y a pas de ressources pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc, ce nouveau programme peut avoir un impact sur leur communauté. Donc, il faudrait y avoir un processus qui permet d'identifier un petit peu l'histoire avec des liens vers d'autres pages ICANN. Et puis aussi, il faudrait que les choses soient signalées aussi rapidement que possible pour que les candidats puissent savoir que lorsque quelque chose est préparé, je ne sais pas si c'est le médiateur, si c'est une analyse, etc. Parce qu'en fait, les parties ne sont pas informées qu'il y a certains changements qui sont mis en place. Christine Wilmette, merci Werner. J'apprécie vos suggestions, vos préoccupations. Je suis d'accord avec vous. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles et tout n'est pas toujours disponible au même endroit. Si on va sur l'ICANN.org, sur ICANN.org, il y a ressources, mécanismes de responsabilité et donc là-dessous, on peut cliquer et voir les demandes de reconsidération, les IRP. Et je crois qu'il y a tous les mois l'équipe juridique qui publie une mise à jour sur les CEP et les IRP, donc le statut actuel. Donc ceci existe sur l'ICANN.org. Donc nous allons prendre en compte votre suggestion, peut-être inclure ceci sur le microsite des nouveaux GTLD. La question pour nous, c'est à quel point est-ce que nous continuons d'ajouter des choses sur ce micro-site des nouveaux GTLD, puisqu'il existe toujours un but, mais nous passons vraiment aux opérations des opérateurs de registre. Et donc, je crois que pour l'instant, l'important, c'est ICANN.org. C'est un petit peu ce qui est envisagé. Mais nous allons quand même prendre en compte votre suggestion en termes d'enregistrement des candidatures sur le micro-site, que ce soit les objections, les déterminations, les résultats IP, les résultats CPE. Nous pouvons peut-être faire quelque chose de similaire en termes de mécanisme de responsabilité.
So, thank you.
Christine, au micro. Merci beaucoup. Au micro, Paul Foudy, une autre spécification pour le programme de GTLD, c'était l'innovation. Jake en avait parlé, Jacob Moll en avait parlé. Je suis intéressée de savoir pourquoi le partage d'un domaine dans le nouveau PD, pourquoi à ce sujet-là devrait-il y avoir des changements dans le programme du nouveau GTLD? C'était au micro Ross. Oui, c'était c'était quelque chose qui avait été proposé par un membre de la communauté. Ce sont le genre d'idées qui nous excitent vraiment. C'est des idées qui sont générées par la communauté et ce serait peut-être des choses que l'on devrait faire pour ce genre de choses. Paul Foudy, est-ce qu'il y a quelque chose généralement une façon innovative qui n'a pas été utilisée pour donc accomplir un cadre de travail actuel Ross, oui, c'est toujours bon pour la communauté d'apporter de ces idées au forum, mais ce serait bon de pouvoir discuter de ces choses avec la communauté. Paul Foody, oui, vous n'avez pas fait ça avec .org. Il y a aussi un problème avec les presque 15 millions qui ont été levés avec les enchères. Est-ce que c'était une... Est-ce que c'était les enchères ou c'était le... qui avait un nombre de TLD, Ross, de quel ensemble de conflictuel parle-t-on? Paul Foody, oui, en septembre, 14 millions, Ross, oui, 3 en septembre, 1 en juin. Paul Foody, oui, merci beaucoup. Joss au micro, Joseph au micro de Bloomberg.BNA. Je suis curieux. Y a-t-il des mécanismes formels ou, disons, non formels, officieux ou officiels, pour montrer que ICANN est complètement ne touche pas, ce processus n'est pas inclus dans ce processus. Brett, au micro, Brett Vossel, ICANN ne participe pas du tout à ce processus. Si vous regardez en arrière et que vous regardez aux recommandations GNSO, c'est compris. Il y a une période d'autorésolution. La première étape, c'était de voir si on pouvait résoudre les choses automatiquement. Et après, bien sûr, il y a des options que ICANN a pour accélérer la conversation. Mais en général, il y a d'autres mécanismes utilisés pour faire ces résolutions. Cela se passe dans les couloirs et pas à l'intérieur de ces salles. Au micro, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment ces choses sont résolues en général? Brett, au micro, par exemple, quand les deux groupes qui ont fait une candidature pour Point Country, nous leur avons dit de faire une application, une candidature jointe. On les laisse prendre les décisions. Ou rentrer dans un partenariat. Christine Willett, merci. D'autres questions? Je pense que nous avons ainsi résumé la session. Clore la session. Merci au panel. Merci à tout le monde de sa présence dans la salle aujourd'hui. Merci.